Bonjour à tous, je suis Marie Lavandier, la directrice du musée du Louvre-Lens. Bienvenue pour ce nouveau podcast qui sera aujourd'hui consacré à l'exposition au Louvre-Lens, les expositions particulièrement temporaires, même si chez nous elles s'articulent évidemment au geste extrêmement fort, au geste magistral d'exposition qu'est la Galerie du Temps. Exposer, c'est le cœur du musée. Exposer des objets choisis, disposés, installés, éclairés, proposés à des visiteurs, eux-mêmes amenés à circuler au milieu de ces objets, stationnés ou non devant eux, tourner autour, s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Cette rencontre entre visiteurs et objets, ou l'inverse d'ailleurs, cette expérience de l'exposition est donc pour moi le fondement même d'un musée. Alors comment est-elle pensée au Louvre-Lens depuis 2012? Car l'exposition se pense, souvent individuellement, puis collectivement, elle se construit, puis elle s'ouvre, elle se partage. Et pour autant, c'est un sujet dont finalement on prend relativement peu souvent le temps de parler, alors qu'il constitue donc le moteur de l'offre muséale. Et nous allons tenter de le faire aujourd'hui, après un précédent podcast qui a été consacré à la Galerie du Temps. Le Louvre-Lens a fait le pari de ce mode d'exposition très inédit, très radical dans la Galerie du Temps, qui, nous l'avons vu, retranche de manière systématique les éléments habituels de la visite muséale. En son sein, pas de vitrine, des œuvres à hauteur d'homme, pas de texte, une lumière zénitale. Mais le Louvre-Lens dispose de deux autres espaces d'exposition, exposition temporaire cette fois, la galerie d'exposition temporaire et le pavillon de verre. Et depuis 2012, ce sont pas moins de 34 expositions qui s'y sont relayées. Ce sont des expositions qui peuvent relever de deux types. D'abord, les expositions de démonstration du Louvre ou de présentation des collections du Louvre qui présentent souvent des grands corpus, généralement civilisationnels, qui sont souvent constitués majoritairement d'ailleurs d'œuvres prêtées par le palais parisien même. Et puis un autre type d'exposition, des expositions thématiques, des expositions transchronologiques, des expositions dont les thèmes peuvent parfois un petit peu plus surprendre dans l'espace d'un musée d'art ancien, d'un musée classique. Je pense en particulier par exemple à l'exposition sur l'amour. Ces expositions déclinent, mais pas seulement, la voix singulière du musée du Louvre-Lens. Et donc l'objectif de ce nouveau podcast avec nos trois invités, c'est de revenir un petit peu sur ces grands enjeux de la conception des expositions du Louvre-Lens, dans la construction en quelque sorte de l'identité, de la trajectoire du musée du Louvre-Lens, d'évoquer aussi, au-delà de cette griffe du Louvre-Lens, comment elle se construit, notamment à travers un collectif de créateurs, parmi lesquels le fameux duo, le commissaire, d'une part, on va y revenir, et puis le scénographe, d'autre part, mais on va voir qu'ils sont entourés de toutes sortes d'autres compétences à travers des moments qui marquent vraiment des virages dans la fabrique de l'exposition.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Alors, pour évoquer cette question, nos trois invités du jour, que je remercie énormément de leur présence aujourd'hui, qui sont des acteurs du Louvre-Lens depuis bien longtemps. Merci à vous, Clio Karagorgis, vous êtes architecte conseil au musée du Louvre et vous nous accompagnez depuis des années sur les choix originaux, souvent, pas toujours, les choix originaux de scénographie et les grandes étapes de fabrique de nos expositions.
Bonjour à vous, ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Merci. Luc Pirala. Alors Luc, vous avez d'abord été chef du service conservation du Louvre-Lens dès 2013. Vous êtes ensuite devenu directeur adjoint du musée du Louvre-Lens, ça veut dire que j'ai eu la chance de vous avoir comme adjoint, et vous êtes depuis une grosse année directeur scientifique de l'agence France Muséum. Alors vous avez assuré le commissariat d'un certain nombre d'expositions ici au musée du Louvre-Lens, je pense en particulier à RC Louvre en 2016, le Mystère Lenain en 2017, Homère, Pologne, les deux en 2019, et Soleil Noir.
Bonjour Marie, merci de l'invitation.
Avec plaisir. Ariane Thomas, bonjour Ariane. Vous êtes directrice du département des Antiquités orientales au Musée du Louvre. Et vous avez été commissaire ici de deux expositions d'ailleurs. Alors l'une toute seule, l'histoire commence en Mésopotamie, grande exposition de 2016 dont je garde un souvenir ému. C'était la première exposition que j'ai eu la chance de, disons plutôt de construire, puisqu'elle avait été engagée largement avant mon arrivée, d'ouvrir et de faire vivre en 2016. Et puis musique. Écho de l'Antiquité en 2017. Et ça, par contre, c'est une exposition que j'ai eu le choix de faire. Elle était déjà dans les cartons. Et je trouve qu'on en a fait une exposition assez incroyable. D'autant plus que dans cette exposition, nous avions 8 commissaires dont vous étiez.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation et très heureuse d'être parmi vous.
Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.
Alors vous avez donc tous les trois été impliqués très étroitement dans le développement d'expositions au musée du Louvre-Lens, en tant que commissaire, en tant que conseil, en tant qu'architecte scénographe aussi. Et vous avez du coup peut-être pu vivre, pu voir, pu construire d'ailleurs parfois les inflexions dans la programmation des expositions au musée du Louvre-Lens. Alors j'aimerais peut-être pour commencer qu'on parle justement de ce que c'est qu'être acteur d'une exposition, et notamment ce fameux terme de commissaire qui étonne un petit peu tout le monde, qui a des relents presque policiers. Alors, policiers, peut-être on hésite entre l'enquête et la punition. Il y a vraiment une connotation de ce terme qui souvent étonne beaucoup ceux qui nous entendent l'utiliser dans le cadre d'une exposition. Alors, je l'ai dit, pour autant, évidemment, le commissaire est rarement tout seul. Il n'est pas toujours tout seul, évidemment, comme commissaire, on va en parler, pas du tout tout seul, comme acteur de la fabrique de l'exposition. Alors Ariane, peut-être commencer par vous. Vous avez été impliquée justement dans ce commissariat des expos musique écho de l'Antiquité avec 8 commissaires. C'était un énorme pari, d'autant qu'une partie des commissaires était originaire du monde professionnel des musées et une autre du monde de l'université et de la recherche. C'était un pari assez risqué, je dois dire, qui m'a un peu effrayée quand j'ai trouvé ce projet dans les cartons. Et puis vous avez été aussi l'unique commissaire, seul maître à bord, si j'ose dire, du commissariat. Pour l'histoire commence en Mésopotamie. J'aimerais peut-être que vous nous parliez justement de ces deux expériences quant au rôle de commissaire.
Alors, je dirais qu'effectivement, le terme de commissaire nous étonne moins, je pense, dans le monde des musées. Et sans pour autant connaître très bien, sinon par des romans, le rôle d'un commissaire en termes de police, il y a peut-être quelque chose qui se rapproche au sens où, effectivement, on a une équipe multiple qui a chacune bien sa tâche. Et en même temps, il y a un peu un rôle d'orchestre, de chef d'orchestre autour de ça. Et parfois, au début, selon l'exposition qui, selon sa thématique, selon comment elle s'est construite, a un ou plusieurs commissaires, au début, on est souvent un peu seul. On va d'abord penser un début d'exposition qui sera ou non tout à fait différente à la fin. Mais je dirais, voilà, on peut définir le commissaire comme étant celui qui, au départ, a l'idée et va la mettre en forme pour arriver justement à savoir ce qu'il s'agit de demander à qui et donc constituer aussi l'équipe nécessaire. Ça peut impliquer, et si je reprends l'exemple de musique, d'accroître le commissariat et effectivement de s'associer à des personnalités qui n'auront peut-être pas la même expérience muséale, mais qui vont apporter beaucoup à la part de discours scientifique que devra porter l'exposition. Donc voilà, le commissaire au départ, et puis ensuite tout le long, avec toute cette équipe qu'il s'agit de constituer au fur et à mesure des besoins et de qu'on avance dans la conception de ce qu'on veut pour cette exposition. Donc j'ai parlé de discours scientifique, c'est, je pense, sûrement souvent la base, associé en fait scientifique. Peut-être l'adjectif est trop limitatif parce que scientifique et pédagogique vont ensemble dans la mesure où on pense à partir d'un certain savoir et d'un certain sujet une exposition pour un public. Donc en fait, c'est scientifique et pédagogique dès le départ. Et il s'agit de savoir avec quelles œuvres, avec quels multimédia, médias, avec quelle scénographie aussi. Et je dirais, c'est peut-être le troisième adjectif clé, la scénographie. Évidemment, ça va être le rôle des scénographes, des architectes, de tout un tas de corps de métiers très spécialisés et très experts, mais en même temps qui ont eux aussi besoin de se nourrir de la pensée scientifique, pédagogique et scénographique, puisque tout ça va au départ partir de ce que le commissaire a comme idée, bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein, que justement dans le collectif on gardera ou on fera évoluer ou on va éliminer, parce que c'est pas du tout une si bonne idée que ça. Mais voilà, on agglomère le contenu scientifique, les intentions pédagogiques, les difficultés et les gros avantages aussi du projet de départ, pour pouvoir avancer vers ce qui est à la fois, on va dire, une exposition et en même temps un peu en show. Enfin, moi, je ne savais jamais très bien, tant pour une exposition à plusieurs que pour une exposition que j'avais eu la chance de porter assez librement. Mais dans les deux cas, je crois qu'il y a des avantages et des inconvénients. Finalement, on a cet équilibre entre une exposition de musée, on est un lieu de savoir, de rêverie aussi, mais tout ça, pour être pédagogique, pour être agréable, doit aussi être un show, quelque chose qui se rapproche du théâtre, qui en utilise certains des moyens, ou du cinéma. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, effectivement, ayant eu ici au Louvre-Lens la chance et le bonheur d'avoir deux expériences très, très opposées en termes de commissariat, je crois qu'il y a cet élément commun qu'on attend du commissaire, qu'il soit du début à la fin, celui qui va savoir à peu près où il veut aller et en même temps écouter suffisamment tous les autres pour que chaque fois que ça part dans une mauvaise direction, les avis et les expertises réunies soient bien entendus et suivis.
Merci beaucoup Luc Pirala, en tant que donc directeur de la production culturelle, mais aussi surtout commissaire. Alors, souvent associé, d'ailleurs initialement associé à des commissaires du musée du Louvre pendant le premier cycle qui reposait sur en gros un principe d'une exposition proposée par chaque département du musée du Louvre. Quelle est votre vision de ce sujet de l'exposition au musée du Louvre-Lens? Comment avez-vous contribué d'abord à le penser? Et puis ensuite, comment avez-vous contribué à construire ces expositions en tant que commissaire?
Alors je vais peut-être revenir un petit peu en arrière pour indiquer à ceux qui nous écoutent au fond ce qu'est une exposition, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup par ailleurs. Pour l'exposition dépasse le cadre du musée, hein, il en existe dans d'autres lieux. La théorie muséologique parle de médias en fait, hein, puisque c'est un dispositif qui permet au fond d'appuyer un discours, donc du commissaire, de l'émetteur justement vers le récepteur qui est le visiteur, appuyé sur des objets ou des expos quand on n'est pas complètement dans les musées d'art, au service donc de ce propos. Alors c'est très intéressant parce que ça montre, que pour une exposition, il faut un concepteur, donc évidemment un commissaire dans le cadre des musées d'art, mais aussi un visiteur. Et ça, c'est tout de suite, j'allais dire, la particularité hein, du projet du Louvre-Lens, qui est, je pense, véritablement d'associer cette excellence, qui est symbolisée par le nom du Louvre, hein, dès le départ, à ce public qui est le nôtre, enfin qui était le nôtre pour moi ici. Un public qui, je voudrais insister là-dessus tout de suite, c'est la proximité qu'on avait avec lui très rapidement. C'est-à-dire que, justement, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre beaucoup de mes collègues, notamment du Louvre, bien plus experts que moi sur les sujets qu'on avait à traiter, mais qui peut-être avaient moins la connaissance, j'allais dire presque quotidienne, d'une partie du public. Alors ici, je penserai à Bernard Ramon, si tu me le permets, qui malheureusement nous a quittés, parce que c'était un fidèle, voilà, et qui promenait son chien dans le jardin et qui tapait à la fenêtre quand il passait, et du coup, on pouvait discuter. Et du coup, ça donnait quelque part un caractère très humain, très immédiat, au fond, du visiteur. Et je trouve que dans le travail de conception qu'on avait à faire, ça nous donnait un plus, voilà, qu'un aspect peut-être un peu abstrait du visiteur, parce que là, je défends cette position. Tous les collègues de musée, tous les conservateurs ne font pas des expos pour eux. Hein. Ils le font pour un public, pour aussi faire avancer la science et leur discipline également, qui est une part importante de ce pourquoi on le fait. La différence est peut-être dans cet aspect un tout petit peu, peut-être abstrait, de ce visiteur, notamment quand on travaille dans des plus grands musées.
Et justement, comment est-ce que, à travers vos commissariats d'expo, vous vous êtes mis au service de cette relation au public ?
Ça dépend beaucoup de...
J'ai exposition lui-même, peut-être pour commencer.
Je pense que la question de l'exposition vient toujours, j'allais dire, au service d'un projet plus vaste. Et comme vous l'avez mentionné, le musée du Louvre-Lens, c'est aussi la galerie du temps. Et la question quand même de l'exposition, telle que moi je le concevais, c'était aussi une sorte de complément. D'où d'ailleurs, en termes de scénographie, des partis pris qui étaient souvent... chez moi en tout cas, radicalement opposés, plus colorés, un peu plus immersifs, justement pour donner à sentir autre chose que le musée. Après, évidemment, il y a eu des projets un petit peu plus particuliers au Louvre-Lens. Alors, vous avez évoqué effectivement RC Louvre, que j'ai eu la chance de pouvoir programmer au fond en 2016, au moment où Lens accueillait l'Euro de football et que effectivement la région notamment nous avait demandé de pouvoir réfléchir à au fond mettre ensemble nos publics avec le Stade Bollard qui était juste à côté. Mais au fond, j'y ai pas trouvé beaucoup à redire dans la mesure où, ça c'est important, la question de la légitimité des sujets d'expo. Moi, je considère qu'il n'y a pas de haute culture ou basse culture, etc. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Marie, sur le fait qu'on est dans un territoire de culture qu'on devait respecter. Et je pense que c'était notre rôle de le faire, sachant que une des particularités d'être dans un musée qui s'appelle le Louvre, je pense que quand on est dans le cadre français, on a en soi, j'allais dire, l'intégralité de toutes les autres collections nationales. Ce n'est pas tout à fait vrai historiquement, mais d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire qu'on est légitime, au fond, à montrer toutes les collections nationales, et même les collections du Musée national du sport, puisque c'était une partie du projet, que de faire en sorte que ce qu'on allait montrer puisse enrichir le patrimoine national en étant donné, pour certaines, à Nice, là où est le Musée national du sport. Donc tout ça avait une grande, cohérence dans à la fois l'ancrage et, au fond, notre rôle de patrimoine, qui n'est pas seulement un patrimoine d'art. Voilà.
Ouais, merci beaucoup de ce témoignage qui montre effectivement aussi l'exposition comme étant au cœur de la fabrique du musée, y compris parfois de sa collection. C'est-à-dire qu'à la fois, la collection, elle la révèle, elle est l'occasion souvent de la restaurer, de la raconter différemment, de l'exhumer des réserves, si j'ose dire. Et puis, effectivement, dans le cas très particulier de cette exposition, mais comme aussi souvent dans les musées d'ethnographie ou de société, elle peut même être l'occasion d'enrichir, non seulement intellectuellement et scientifiquement, mais aussi très concrètement, cette collection.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
On a parlé du commissaire, on a parlé de l'intention, on a parlé du discours qui est souvent dans un certain nombre d'expositions effectivement préalable en fait au choix même des objets. Et puis là, on remet un petit peu aussi un des protagonistes, un des acteurs de l'exposition, pour moi d'ailleurs au même titre que le public lui-même, que les visiteurs lui-même, qui est l'objet au cœur de l'exposition. Alors, il y a encore un autre, enfin, vous l'avez compris, il y en a un nombre énorme hein, d'invités, d'acteurs dans la fabrique de l'exposition, dans la dramaturgie, si j'ose dire, de l'exposition. Et cet autre acteur est au Louvre-Lens, il est assez peu discret, il est très faussement discret en tout cas, c'est évidemment l'architecture, avec chez nous un espace principal d'exposition temporaire qui fait pratiquement 1800 mètres carrés. C'est un des plus grands espaces d'exposition temporaire en France, si ce n'est le plus grand. Et puis le pavillon de verre, qui est un petit peu l'anti-espace d'exposition comme on l'imagine, puisqu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de simèse, et il est entièrement baigné par la lumière du jour. Donc des espaces à l'architecture très, très forte, Clio Caragorgis, sur lesquels, effectivement, dans lesquels va s'inscrire, ou avec peut-être lesquels va se jouer, là encore au sens presque dramaturgique du terme, une exposition. Alors j'aimerais vous entendre sur cet espace et sur la manière dont vous nous accompagnez, dont vous nous provoquez aussi, Clio, avec vos avis qui nous poussent toujours plus à l'audace, dans cette ambition, puisque c'est le Louvre autrement, c'est faire musée autrement, et c'est aussi faire exposition, faire scénographie autrement, Clio Caragorgis.
Merci. En effet, les personnes qui ont parlé avant moi sont vraiment des personnes avec qui l'exposition se fait. Donc, ce sont vraiment des personnes avec qui les architectes scénographes travaillent main dans la main. Donc, tout ce qui a été dit est vraiment d'une grande justesse. L'architecte scénographe, évidemment, quand il est arrivé à Lens, ça a été une grande affaire pour l'architecture, parce que justement, Lens est un espace d'une audace et d'une très grande d'une très grande justesse. Donc, il est vrai que le bâtiment même, quand vous arrivez, vous avez déjà une posture. Il est posé dans un jardin, il est dans la justesse architecturale. Donc c'est vrai que le choix d'avoir ce bâtiment n'était pas un hasard pour l'architecture. Ça, c'est vraiment un manifeste pour les architectes, pour les musées. Beaucoup. Enfin, moi, je dis souvent que c'est le plus beau musée du monde, mais bon, ça, je suis quand même très parti pris. Mais malgré tout, ça a été un très grand événement. Et ça n'est pas passé inaperçu auprès des scénographes architectes. Il est vrai qu'ils ont tout de suite eu l'œil qui est arrivé, et l'envie de travailler dans ce musée. Donc, ça a été un grand cadeau pour l'architecture, ce musée du Louvre-Lens. Et d'ailleurs, depuis 2012, vous avez eu combien d'expositions, Marie ?
34,
voilà, 34 architectes différents qui ont pu travailler dans ce lieu merveilleux. Alors, ça, évidemment, ça amène une posture pour l'architecte. Ce n'est pas chose facile pour lui, parce qu'il faut qu'il ait la même justesse dans sa réponse à sa scénographie que le bâtiment entier. Donc, c'est un travail qui pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questionnements aux architectes, ce qui fait avancer l'architecture. Et c'est malgré tout formidable.
J'aimerais peut-être revenir sur une exposition où le Louvre nous avait beaucoup accompagnés, qui était cette exposition sur les Lenains, dont d'ailleurs, Luc, vous étiez co-commissaire, et exposition qui comptait seulement 70 peintures. 70 peintures dans 1800 m², c'était quelque chose d'assez compliqué. On se demandait d'ailleurs si on n'allait pas devoir réduire l'espace, et on s'est dirigé vers une autre solution dont j'ai apprécié in fine la justesse et une forme de générosité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, il est vrai que une exposition, c'est une traduction d'une envie d'un commissaire. Et pour comprendre cette envie que le commissaire a de raconter une histoire, ce n'est pas simple. Donc, on écoute beaucoup. Écouter beaucoup le commissaire, être très proche de lui, ça sert beaucoup pour les architectes scénographes, car il faut raconter une histoire qui prend la place dans 1800 m². Alors, une histoire avec des œuvres d'art qui font 40 cm par 30 ou 1,80 m par 2,10 m, C'est vrai que ce n'est pas simple, mais finalement, le confort de visite passe aussi par la qualité architecturale de l'espace. Et quand on dit que l'espace est beaucoup de choses, c'est tout en entier, pour le monde entier, on voit bien comment l'espace fabrique des vies.
Merci Luc Pirala.
Oui, j'allais même dire, dans cette exposition en particulier, l'espace a été même plus que ça, puisqu'il a déterminé quasiment la répartition des tâches au sein du commissariat. Alors ça, je pense qu'Ariane y reviendra, c'est le travail entre commissaires, en fait, est très informel, en fait. C'est rare que l'on se dise dans quelle est la tâche de chacun. Là, en l'occurrence, c'était un peu différent, parce qu'effectivement, je partageais le commissariat avec Nicolas Milovanovic, que je salue d'ailleurs, qui est donc notre collègue conservateur des peintures françaises 17e au Louvre, et qui donc effectivement en soi possédait une expertise que je n'avais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que autant la scénographie a joué d'intérieur-extérieur, en fait, et en réservant l'espace intérieur au tableau et en laissant finalement cet extérieur, entre guillemets, à la médiation. Et au fond, ça a été presque ma place à moi. C'est-à-dire que autant la liste d'œuvres, évidemment, j'avais pas grand-chose à dire par rapport à l'expertise de Nicolas. Mais en même temps, par contre, sur le reste, c'est-à-dire sur effectivement comment on utilise la médiation, notamment multimédia, hein, qui fait aussi partie de la manière dont on fait passer des messages. Là, finalement, il y avait beaucoup de place. Et je me souviens que pour moi, l'enjeu, c'était de faire comprendre aux gens, au fond, comment à travers... au fond, des peintres très peu connus, c'est-à-dire qu'ils ont été importants évidemment à un moment, mais dont les traces dans l'histoire sont vraiment très très fugaces. Hein. C'est comme si aujourd'hui on reconstituait des biographies avec des tickets de carte bleue. Hein. Enfin, c'est à peu près ce niveau-là. Comment on étudie, comment on rentre dans la matière, comment on donne à voir des archives anciennes du XVIIe siècle. C'était vraiment ça que, en tout cas moi personnellement, mon objectif dans cette exposition. Voilà. Et donc je remercie encore Clio d'avoir participé au fait de m'avoir laissé une place au fond dans ce commissariat.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Alors une politique, comme on l'appelle, d'exposition temporaire, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une programmation. Évidemment, les sujets, nous les choisissons. On remarque dans la trajectoire des expositions au musée du Louvre-Lens un virage, hein, après des expositions très Louvre, très classique, en tout cas en apparence, comme on vient de le voir en évoquant l'exposition sur la peinture des frères Lenain, une séquence d'exposition thématique qui renvoie finalement le visiteur à des éléments constitutifs de sa vie, l'amour, le pouvoir, les repas, qui intègre un petit peu des dimensions aussi liées au territoire dans lequel s'inscrit le Louvre-Lens, mais qui fondamentalement permet de décliner différemment la partition universaliste, en fait, qui est celle du Louvre et de ses collections. Alors, j'aimerais peut-être revenir à une séquence d'exposition assez originale, parce que l'idée, évidemment, c'est toujours au Louvre-Lens d'essayer d'expérimenter, qui sont deux expositions qui étaient consacrées à quelque chose qui n'est pas facile à mettre en exposition, parce que généralement, on l'a dit, l'objet, le concret, c'est le protagoniste essentiel de l'exposition. Mais là, on s'est attaqué au patrimoine immatériel avec deux expositions. Alors, l'une, non seulement consacrée à un patrimoine immatériel, mais en plus un patrimoine largement disparu, oublié, effacé, qui était la musique dans l'Antiquité, dont Ariane, vous avez pu participer au commissariat. Et puis, Homère, évidemment, alors monument universel de la culture occidentale, mais aussi, là encore, patrimoine immatériel, non pas écrit, comme on l'imagine beaucoup, mais au départ, fondamentalement oral. Alors voilà, comment est-ce que vous avez, l'un et l'autre, pu expérimenter cette appropriation par l'exposition d'un objet qui, a priori, ne s'y prête que très peu, Ariane Thomas.
Alors, à vrai dire, effectivement, je pense que Clio parlait de l'envie du commissaire ou des commissaires. L'exposition sur la musique, et j'imagine Omer qu'il en était de même, c'est d'abord parti du fait que nous avions envie, c'était tout un programme de recherche, et qu'il nous apparaissait possible d'en faire une exposition. Ce qui n'était pas forcément admis de tous, parce qu'en effet, la musique antique a pour l'essentiel disparu. Mais je dis bien pour l'essentiel. Alors, on pourrait penser, parce que ça a aussi été abordé juste avant, que sur un sujet pareil, on part d'abord du sujet et non pas des œuvres. Mais finalement, en tout cas, en ce qui me concerne, en fait, on est quand même partie des œuvres pour déterminer justement ce qui pourrait faire une exposition. Et puis, il y a des aspects du sujet qui, eux, ont été traités autrement, par des publications, par des conférences, mais qui, justement, ne pouvaient pas faire l'objet d'une exposition parce qu'ils étaient, comme on dit parfois, un peu livresques, mais que nous n'avions pas la matière pour en faire une expérience d'exposition. Donc, en fait, même sur un sujet comme ça, on est quand même partie des œuvres. Et ceci dit, je contrebalancerai en disant que ensuite, je reviens, on réfléchit pour un public très large, très varié, qu'on ne connaît pas forcément, et de toute façon, personne ne peut le connaître complètement, et les attentes sont multipliées et contradictoires parfois. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, toujours se dire qu'on doit parler au plus grand nombre, sinon à tous, et que quelque part, même si on parle aux plus savants des savants, on doit être totalement accessible, comme si... et lui et moi ne savaient rien au départ du sujet. Donc à partir de là, je pense qu'on peut presque tout dire, à condition, effectivement, je reviens à toute l'équipe qui fait une exposition, de mettre les différents moyens au service de cette volonté de passer n'importe quel message, en partant du fait que personne n'en sait rien et que donc on peut tous arriver à en apprendre plus ensemble. Donc, en partant de là, je reviens au fait que si l'idée construit, la construction de l'exposition se fait à partir des œuvres, en revanche, l'exposition elle-même n'est pas du tout limitée aux œuvres, particulièrement au Louvre-Lens, et je tiens à le saluer. Et donc, effectivement, on peut avoir des films, du multimédia, toutes sortes, des maquettes, des moulages. Enfin, il y a une vraie liberté qui est permise, je pense, par le lieu, les équipes, l'espace aussi, qui est effectivement est généreux et modulable, et c'est pas du tout négligeable. Et tout ça, je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, a vraiment aidé à ce que dans ces projets, eh bien, on puisse aller vers cette espèce d'expérience la plus intuitive possible pour passer un savoir à tout le monde. Et ça, ça passe beaucoup, c'est vrai, par le travail, donc certes, sur ces espaces généreux, avec les équipes du Louvre-Lens, avec les moyens qui sont mis à disposition, mais aussi avec le travail avec les architectes scénographes. Et la construction, justement, aussi de plein de vide, enfin d'un vrai rythme, de quelque chose qui fait qu'on a une expérience qui n'est qu'enrichissante et qui, surtout, jamais, en tout cas, on avait aussi fait des dispositifs immersifs, enfin, pour que, finalement, on n'ait jamais le sentiment de ne pas savoir. Et ça, je crois que c'est vraiment réussi au Louvre-Lens. Et évidemment, venant du Louvre, je ne peux que le souligner aussi, le slogan « Le Louvre autrement », ça marche effectivement particulièrement bien dans le cadre d'une exposition temporaire, parce que pour le coup, et je pense particulièrement à l'exposition sur la Mésopotamie, mais il y en a plein d'autres qui l'ont démontré, c'est vrai que c'est aussi une expérience formidable pour un commissaire que de pouvoir présenter son sujet souvent, et en tout cas une bonne partie des collections permanentes, de l'exposition permanente du Louvre, totalement autrement, et de pouvoir du coup véritablement expérimenter des tas de choses. Ça, c'est infiniment précieux, et je crois qu'on doit rappeler qu'on doit au Louvre-Lens cette chance, et que c'est couplé à la chance de la Galerie du Temps. Exemple, dans l'exposition Mésopotamie, moi j'avais tenu avec l'architecte scénographe à ce que l'on s'appuie aussi sur l'expérience de la galerie du temps et que dans les différents rythmes qu'on avait ménagés dans l'exposition, on termine justement par un renvoi à l'expérience de la galerie du temps, mais limité au sujet de la Mésopotamie, en reprenant cette idée qui est très très merveilleuse, hein, de pouvoir parcourir un espace en ayant finalement, en utilisant l'espace pour cadrer dans le temps, ce qui est si difficile, particulièrement pour les périodes antiques, pour beaucoup d'entre nous.
Merci beaucoup Luc Pirala, justement sur Homer.
Oui, vous insistiez sur le caractère effectivement immatériel du patrimoine auquel le poète, qui peut-être n'a jamais existé, fait référence. Mais au fond, dans la question de ce projet-là, il y a vraiment une histoire aussi de beaucoup de projets dans le projet. Et on parlait de liberté, on parlait d'audace. Au fond, l'exposition Homer, ce n'était pas une exposition ni vraiment d'archéologie d'ailleurs, ni vraiment de poésie. C'était un peu tout ça à la fois. Ça allait effectivement du moulage antique à beaucoup d'art contemporain, et en mettant même du hard rock, hein, dans les fauteuils. Je pense que effectivement, ça, c'est une liberté qu'on sentait beaucoup et que les collègues aussi sentent beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut se permettre des choses, d'une part, parce qu'effectivement, l'exposition temporaire, est là pour justement essayer et voir un peu les réactions du public, les enjeux de médiation, ce qui marche, ce qui marche pas. Et pour Homer, nous, on était vraiment heureux de pouvoir, au fond, avoir cette liberté-là, tout en montrant des personnages que tout le monde connaissait, au fond.
Merci Clio Caragorgis, vous vouliez intervenir.
J'entendais Ariane et tout d'un coup, je me suis dit, mais évidemment, la barre est mise très haute au Louvre-Lens pour un architecte scénographe, dès le départ. Donc, il est vrai que c'est un vrai bonheur que de travailler dans ce musée, parce que justement, il faut se surpasser. Et un architecte, par définition, doit se surpasser tout le temps. Et d'ailleurs, n'est jamais content de ce qu'il a fait. Et toutes les expositions ont été vraiment des exemples de expositions magnifiques qui resteront dans l'histoire comme des expositions historiques, parce qu'il en existe, hein, il en existe. Pour le monde de la culture, on parle des premières expositions de Beaubourg à l'époque. Donc il y a toute une histoire. Et Lens est très important parce que justement, il a donné la liberté et la vraie cohésion entre le sujet et la scénographie, puisque l'architecte scénographe et le commissaire, alors depuis tous les temps, on travaille ensemble, mais là, plus que jamais, ce sont des réunions dans la pratique, ce sont des réunions, mais très, très, très nombreuses, côte à côte. Le travail du scénographe est vraiment associé au travail du commissariat. Et le commissariat, il est vrai, quand il a un programme et une définition du sujet clair, donne une très bonne exposition, parce que justement, l'architecte scénographe a compris le propos. Parce que si l'architecte scénographe n'a pas compris, l'exposition en général est ratée. On peut le dire, hein, on peut le dire. Donc il est important que cette compréhension se fasse déjà d'abord entre ces deux parties. Alors très souvent, je dois le dire, parce que c'est vrai que pour avoir fait pas mal d'expositions dans ma vie, très souvent on essaye et on aide beaucoup en tant qu'architecte le commissariat à accoucher, disons, de son sujet, parce que quelquefois les choses sont difficiles à montrer, difficiles à dire, il faut beaucoup d'audace. Et bon, avec l'architecture, malgré tout, on arrive à donner cette image.
Merci Clio de rappeler ça, parce que je sais que ça offense beaucoup votre modestie. Mais effectivement, ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense qu'il est essentiel que le scénographe comprenne le projet du commissaire, mais il est parfois aussi très enrichissant que le commissaire comprenne le sujet de l'approche du scénographe, de l'architecte, et justement s'en serve comme un moteur très puissant de progression de son objet, de son projet d'exposition, qui finalement ressemble d'ailleurs assez rarement, quand c'est réussi, c'est que ça a vraiment, quand c'est très réussi en général, c'est que ça a beaucoup bougé en cours de route. Parfois il y a un miracle, l'exposition à l'arrivée, le commissaire l'avait imaginé exactement comme ça, etc. Honnêtement, c'est très très rare. Donc c'est vraiment ce travail très très collectif, je pense, qui est déterminant. Et justement, je ne suis pas certaine que finalement la scénographie soit juste un art de la transcription. C'est encore une fois, c'est une dramaturgie au sein de laquelle chacun joue un rôle très important. Il y a un moment où on sent que l'exposition marche, qui arrive généralement assez tard. Lequel est-il pour vous ? Est-ce que vous l'identifiez ?
Alors, c'est vrai que je peux parler peut-être de l'exposition musique, qui était donc une exposition assez complexe, puisque 8 commissaires. Et il est vrai que 8 commissaires, donc 8 sons de cloche, si j'ose. Oui, absolument. Et les scénographes architectes étaient une équipe japonaise. Donc vous voyez, nous sommes dans des cultures, cultures différentes. Donc nous avons mis du temps à travailler ensemble. Donc moi j'ai fait un peu le go-in-between des deux équipes, ce qui était vraiment extrêmement intéressant parce qu'au tout début, donc l'équipe japonaise qui à Toy était une équipe, petite équipe de 2 voire 3 personnes qui n'avaient pas beaucoup travaillé dans les musées et encore moins à Lens et en France. Alors, il est vrai que pour une culture japonaise, essayer d'expliquer 8 sons de cloche et 8 programmes, ça a été très difficile. Et à un moment donné, au bout de quelques mois, il a fallu quelques mois quand même, de discussion, et surtout on a discuté ensemble avec les architectes. Je les ai emmenés voir des musées, je les ai emmenés voir différentes présentations, et ça a ouvert des horizons. Ils ont fait une exposition mais magnifique, merveilleuse. Elle était aérienne comme les... Enfin, c'était merveilleux.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Beaucoup. Pour ce qui concerne le commissariat, depuis quelques années au musée du Louvre-Lens, on a recours à des commissaires extérieurs qui ne viennent ni du Louvre, ni souvent même du Louvre-Lens, et qui peuvent relever de métiers ou disciplines différentes. Je pense en particulier à l'ethnographie pour les expositions Amour et Table du pouvoir. Et en fait, pour la scénographie aussi, on varie en fait au Louvre-Lens le type d'interlocuteur. Alors soit en ayant recours à des scénographes externes, vous l'avez évoqué Clio avec ses concours dont nous sommes si fiers, soit en ayant en interne ici au musée un scénographe interne qui s'appelle Mathis Boucher qui réalise un certain nombre d'expositions du Louvre-Lens, maintenant d'ailleurs peut-être finalement majoritairement. Et puis parfois il est associé à des personnalités extérieures qui peuvent ne pas être scénographes. Je pense à Christian Lacroix pour l'exposition L'Empire des Roses. Et puis parfois aussi, alors on va se lancer, c'est l'année prochaine avec l'exposition Paysages, on a invité carrément, si j'ose dire cette fois, un artiste plasticien, Laurent Pernaud, à intervenir auprès de Mathis Boucher pour une scénographie objets d'art, sculptures, environnement, installations. Enfin, nous allons voir, le travail est encore en cours. Peut-être Luc Pirala, pour cette première expérience, donc, qui était celle de Christian Lacroix, quelle a été votre perception ? Comment cette audace-là a-t-elle été vécue de votre point de vue ?
Oui, alors le point de vue sur cette exposition est plus un point de vue de production, hein, puisque c'était effectivement mes responsabilités aussi. Moi, j'en garde un très bon souvenir de ce travail avec Christian Lacroix et de ses équipes. notamment évidemment pour le côté créatif, mais par rapport aussi à des enjeux de personnalité, de modestie, de simplicité d'accès pour une personnalité évidemment très reconnue. Je pense que pour Matisse, c'était vraiment une aubaine hein, de pouvoir apprendre voilà, avec un des plus grands sur un sujet quand même difficile avec, encore une fois, beaucoup de collections et des collections qui, d'ailleurs, n'étaient pas forcément très, très valorisées avant l'exposition. Là encore, il y a eu une audace hein, en termes de programmation de présenter l'art de l'Iran du 19e siècle. Voilà. C'est Je vois un sourire.
Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.
Alors j'aimerais que nous revenions à la question du public. Le public, les habitants qui sont vraiment au cœur du projet du musée du Louvre-Lens, musée qui se pense, qui s'est pensé, qui continue de se penser essentiellement autour de la question du public, autour du public, pour le public et même, dirais-je, avec le public. Donc comment cette relation au public est-elle vécue et pensée en termes d'exposition temporaire avec, vous l'avez évoqué Ariane, hein, quand même cette vocation quand même centrale de l'apprendre, du savoir, souvent au cœur de nos expositions temporaires, et pourtant le défi d'un public de proximité qui, il n'y avait pas de musée ici, on est sur un territoire post-industriel avec un public qui n'est pas le public typique des musées et qui très longtemps d'ailleurs a pensé. On sait que le musée du Louvre Lens, du Louvre à Lens, c'était formidable, c'était un objet de grande fierté, mais que ce n'était pas pour lui, pas pour eux. Donc ce sont des choses qu'on remonte petit à petit en créant de la relation, en créant des expositions particulières, où peut-être parfois d'ailleurs le savoir n'est pas si central, ou en tout cas pas si premier, s'efface parfois au profit d'une expérience qui est pour autant fondamentalement apprenante, mais expérience aussi qui fait la part belle finalement à celle du visiteur et qui la requalifie, revalorise, remet au centre de ce qui est fondamentalement justement la culture, sa culture. Donc moi ce qui m'a beaucoup frappé, Ariane, c'est que dans l'exposition « L'histoire commence en Mésopotamie », eh bien vous avez fait un choix qui était un choix que j'ai trouvé extrêmement radical, qui était le choix d'avoir énormément d'écrits dans l'exposition, sans doute l'exposition la plus écrite du musée du Louvre-Lens. Ça me faisait assez peur, j'avoue, C'était très présent visuellement. Alors, il faut dire que l'écrit, il était aussi dans l'exposition, puisqu'il y avait les tablettes mésopotamiennes dont vous étiez attaché à retranscrire la totalité du contenu. C'est énormément d'écrit. Et alors, je dois dire que de ma vie, je n'ai jamais vu une exposition aussi lue. Il y a des gens qui venaient 3 fois, 4 fois, pour lire vos textes. Il y a des textes qui étaient à lire, il y a des textes qui étaient dits ou lus d'ailleurs dans l'exposition. Il y avait aussi des textes qui étaient chantés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question de l'écrit dans l'exposition et en particulier dans celle-ci ?
Alors, je reviendrai peut-être juste sur le fait que vous avez parlé d'apprendre. Pour moi, en tout cas, le musée en général, l'exposition en particulier, est plus un lieu où on découvre, on peut redécouvrir. Encore une fois, je considère que l'exposition peut s'adresser et doit s'adresser aussi bien à celui qui connaît presque mieux que le commissaire lui-même son sujet qu'à celui qui n'en a jamais entendu parler. Et que finalement, on peut présenter la même chose, mais en donnant, justement, contrairement à un cours qu'on suit, une forme de liberté. Et évidemment qu'il y a 1000 façons de visiter une exposition. Donc, ça, c'est un postulat de départ. Ensuite, j'ai parlé d'intuition, d'expérience intuitive. Je pense, en tout cas, effectivement, que ce soit radical ou non, il y avait un parti pris, certes, c'est qu'il y a des éléments où, malgré tout, eh bien, on n'est pas honnête avec le sujet si on ne les présente pas, parce que bah, voilà, la Mésopotamie, c'est l'origine de l'écriture, c'est la cohérence de la Mésopotamie vient du fait qu'on a recopié les tablettes pendant 3000 ans, parce que sinon, au-delà de ça, comme beaucoup de civilisations, elle n'a fait que, qu'évoluer, se muer, se transformer. C'est une terre de métissage qui a été en constante évolution. Donc, en fait, le terme de Mésopotamie n'est véritablement propre que quand on considère cette culture des lettrés qui, elle, s'est remarquablement conservée volontairement dans l'histoire par les tablettes. Donc il me semblait que c'était un indispensable, tout en sachant bien que s'il y a peu d'assyriologues dans le monde, c'est parce que précisément, j'avais pas l'intention que l'exposition devienne une école d'assyriologie. C'était pas du tout l'objectif. Donc, pour vous répondre, il me semblait simplement qu'on devait donner une juste part à ces tablettes, à leur diversité, à leur richesse, et trouver les moyens en même temps pour qu'ils ne soient pas envahissants, et qu'on donne le plus de clés d'entrée. Certains vont lire les textes, relire les textes, tant mieux, et puis d'autres ne vont pas les lire, et c'est pas grave. Certains vont simplement écouter la minute qu'on avait enregistrée en langue originale, comme de la musique, et on écoute beaucoup de musique dans des langues étrangères. Donc il me semble, pour terminer, qu'il y a évidemment un équilibre à ne pas dépasser, et qu'on s'était en revanche tenu à ce que les textes ne soient pas trop longs, à ce que les enregistrements soient très courts, etc. Parce que ça, c'est même, vous parliez de confort physique, il y a des durées au-delà duquel on est complètement fatigués tous, mais tant qu'on reste dans le juste équilibre et la juste balance, justement, de ce qu'on peut physiquement et intellectuellement absorber, je crois qu'on peut tous permettre, avec, je tiens à le saluer, les équipes qui ont fait l'exposition. Et vous demandiez à Clio quand est-ce que c'est réussi. Moi, je dirais qu'il y a deux moments. Celui où on a l'impression qu'effectivement, l'exposition échappe complètement, entre guillemets, au commissaire, parce que toute l'équipe, du monteur à celui qui fait la lumière, ceux qui font les cartels, j'en passe parce qu'il y en a tellement... se sont appropriés eux-mêmes cette exposition, et que ça devient du coup cette espèce d'outil de communication, de divertissement, de rêve et de découverte. Et puis le deuxième, c'est quand le public a l'air de l'apprécier. Je dirais que ça, c'est la vraie récompense.
Clio ?
Oui, en effet, une exposition doit être un exercice de style et être compris. Il n'y a rien de plus agréable que de visiter, de faire un parcours et de comprendre. Ça a l'air comme ça simple, mais pas du tout. Et alors, c'est vrai aussi que l'intégration de l'écrit, l'intégration des éléments clés pour la compréhension, c'est l'histoire, c'est l'affaire de l'architecte, du graphiste et des scénographes, finalement. C'est là où il doit exceller, c'est là où il doit être inventif. Et là, j'avoue que le Louvre-Lens a une politique qui est extrêmement audacieuse, puisqu'elle demande à des personnes de venir lui rendre visite et les invite à des expositions pour faire une direction artistique, pour être même commissaire. Comme quand vous avez eu Christian Lacroix, c'était une direction artistique qui n'avait pas... On n'avait pas eu l'habitude du tout d'avoir ce type de travail. Et ça a donné une très belle exposition qui, elle, là aussi, restera dans les annales.
Merci. Luc Pirala, vous avez joué un rôle très très important, vous évoquiez l'exposition RC Louvre, mais au-delà de ça, dans le cheminement quand même d'une conscience très forte au musée du Louvre-Lens, que petit à petit, non seulement les expositions, il fallait les faire pour le public, notamment le public de proximité, mais qu'il fallait aussi les faire un peu avec le public. Alors vous êtes à l'origine d'expériences, que ce soit dans le champ de la recherche académique, je pense à une expérience qui s'appelle Iconicat, ou des expériences proprement muséales, fondées là aussi d'ailleurs sur des méthodes empruntées au monde de la sociologie, je pense au fameux groupe TEST, donc à l'origine d'actions extrêmement volontaristes, qui permettent très à l'amont d'une exposition d'ailleurs d'impliquer le public. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est effectivement une des particularités du travail qu'on pouvait faire ici avec les publics. Cette question de groupe test qui effectivement s'apparente à des focus tests hein, qu'on peut avoir aussi dans le monde du marketing, l'idée était au départ au fond interne à l'équipe, hein, puisque en fait c'était quelque chose de se dire on a dans l'équipe du Louvre-Lens des gens de la région qui ne sont pas nécessairement diplômés en histoire de l'art, et donc je voyais deux intérêts à faire ça. D'une part, effectivement, à faire du sort de team building, comme on dit en bon français, c'est-à-dire effectivement de remobiliser l'équipe autour d'un des éléments très forts hein, de la programmation qui étaient les expositions, et aussi de se dire que si on veut, on avait quelque part des exemples de publics locaux à domicile, et que du coup, si on arrivait à les mobiliser, et puis surtout à voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, dans tout un tas de domaines. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on travaillait un peu la médiation, on travaillait aussi la scéno, avec cette difficulté que pour les gens, c'est difficile de forcément lire les plans, mais on essayait quand même de le faire, et aussi des enjeux de communication. Effectivement, on a développé un petit peu, élargi ce dispositif au voisinage, parce que c'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre au cœur de notre politique de voisinage. Et il y a des choses éminemment concrètes dont on s'est habilement servi. On parlait de l'exposition L'Empire des Roses. Moi, je me souviens très bien du caractère très clair du fait que l'Iran, c'est pas forcément effectivement un pays qui parle. Par contre, si on dit Perse, alors là, les yeux s'ouvrent de manière assez, assez radicale. Et je pense que ça a pu, faudrait demander à Magali, mais quelque part servir aussi la manière dont on s'est adressé au public, aussi en termes de communication. Donc c'est vraiment là encore fondateur, et encore une fois cette possibilité de voir les gens en face de textes, d'éléments de scénographie et de comprendre les réactions. C'est très très important. Bon, ça va beaucoup après.
Est-ce que peut-être on peut évoquer aussi cette exposition, cette double exposition d'ailleurs autour de la Pologne qui a été faite ? Parce que ici il y a quelque chose qui est quand même particulier, c'est quel est le lien finalement, quelle est la logique, la légitimité aussi est souvent interrogée, vous le savez même aujourd'hui, entre ce lieu, ce territoire qui a une histoire, qui a une culture, soit une histoire industrielle liée à la mine, une histoire aussi qui est née à peu près au moment où finalement, enfin une histoire industrielle qui est née à peu près au moment où s'arrêtent finalement les collections du musée et du Louvre, et puis ce Louvre ici, ce Louvre-Lens, mais bien ce Louvre fondé sur une très très grande collection européenne et méditerranéenne d'une manière large. Comment finalement le musée du Louvre-Lens peut articuler cette culture locale et une culture internationale, une culture européenne, une culture mondiale aussi. Donc un des éléments de réponse que nous avons essayé d'apporter ensemble d'ailleurs, mais aussi avec des collègues de Pologne, c'était cette double exposition.
Oui, c'était un projet vraiment très important pour moi. Je pense que c'est aussi le premier qu'on a fait ensemble. Je pense qu'il faut il faut s'en souvenir. Je pense que ce qui a été vraiment moteur pour moi, bon, déjà c'est la découverte d'un pays que je connaissais pas, d'une culture que je connaissais pas, d'une peinture absolument incroyable. Et tout de suite, on a senti de la part de nos interlocuteurs polonais une générosité qui nous permettrait de vraiment avoir des chefs-d'œuvre très très importants de Pologne pour la petite Pologne, d'amener la grande Pologne ici dans la petite Pologne. Je trouvais le symbole vraiment très très fort, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup engagé dans ce projet.
Merci. J'aimerais revenir peut-être sur cette question qu'on a évoquée d'introduction d'éléments de la culture dite non savante ou de la culture contemporaine ou de l'art contemporain d'ailleurs dans un certain nombre de nos expositions. Vous l'avez évoqué les uns et les autres. Est-ce qu'à votre avis il s'agit de renforcer l'exposition, son discours, ou est-ce que au contraire quelque part ces ajouts ne sont pas accessoires, mais en augmentent la portée, le sens, voire dessinent finalement un autre objet qui dépasserait l'exposition elle-même. Ariane Thomas.
Alors, je pense que c'est un peu au cas par cas, j'imagine, puisqu'encore une fois, c'est la décision du commissaire, du groupe qui l'entoure. En ce qui me concerne, il m'a semblé que c'était tout à fait indispensable. Alors, pas du tout accessoire, mais que justement, ça, bah, finalement, ça faisait partie... et pour le coup, c'était même les premières de ces clés que l'on donne, clés de lecture, clés d'entrée, clés d'intérêt, je ne sais pas comment on les appelle, pour que les visiteurs, chaque visiteur a, on ne sait pas quelle résonance par rapport au sujet qu'on lui présente. Et donc, parce qu'effectivement, contrairement à un contact direct où on va pouvoir connaître ou apprendre à connaître la personne et savoir finalement, c'est ce qu'on fait dans des cours, ce qu'on peut utiliser comme moyen pour raccrocher l'intérêt de la personne et surtout lui dire dès le départ, encore une fois, pas de complexe. Il faut entrer dans l'exposition. Après, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, mais en tout cas, vous en savez peut-être plus que vous ne le croyez, au moins au départ. Et donc là, pour le coup, si je reprends l'exemple Mésopotamie, c'est vrai que l'utilisation du jeu vidéo, du cinéma, de toutes sortes de musiques, ou de l'art contemporain, ou je l'ai dit, des moulages, des maquettes, enfin, sans mettre du tout tous ces éléments sur le même plan, mais tout ça, c'était aussi des outils pour montrer la diversité du sujet et donner, je l'espère, des clés d'entrée, des clés de lecture aux visiteurs. Alors, je ne sais pas très bien si j'ai répondu à la question, mais je pense que, après, voilà, c'est en fonction de chaque sujet, mais c'est rarement accessoire, puisque précisément, si une exposition est réussie, si on a utilisé les groupes tests, si on a rassemblé justement aussi les avis de toute l'équipe, et moi, je rejoins ce que vous disiez, Marie, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'expositions en tout cas très réussi, qui ressemble à ce qu'on avait prévu au départ, puisque justement, c'est collectivement nourri. Donc précisément, c'est cette diversité-là qui fait qu'il n'y a rien d'accessoire et qu'à la fin, il y a tout ce que l'on a estimé nécessaire pour réussir la meilleure expérience possible.
Merci beaucoup, Clio.
Oui, il est vrai que le public, il faut vraiment l'étonner. L'étonnement, ça fonctionne comme un magnet, finalement, et il faut avoir cet étonnement. Et toujours, quand je visite des expositions, dans la première salle, il faut quand même toujours avoir cette fabuleuse envie et de dire oh, c'est beau. Et c'est vrai que si on a cette attitude et cette réaction, c'est gagné. C'est vrai que c'est gagné. Le public qui comprenne pas, qu'il ait envie d'apprendre, c'est de toute façon comme une pièce de théâtre, comme un film. Il faut qu'il soit qu'il participe, donc qu'il se sente complètement pris dans l'espace. C'est pour ça que l'espace est très important. L'espace du Louvre-Lens est ce qu'il est, et c'est pour ça aussi que ça marche très bien, parce qu'il donne dès l'entrée du musée une posture.
Merci beaucoup, Clio. Je crois qu'on sent dans votre voix des ingrédients qui sont essentiels aussi dans une exposition. Dans votre voix, à tous les trois, d'ailleurs. D'abord, c'est le bonheur, quand même, le bonheur des protagonistes de cette exposition au fur et à mesure qu'elle avance, parfois un peu dans la douleur, mais voilà, un vrai bonheur de pouvoir créer cet objet très particulier. Je ne comparerai pas à des enfants, mais enfin, c'est rare dans une vie professionnelle, voyez, de pouvoir faire naître des expositions, comme c'est rare dans une vie de voir un enfant qui arrive dans une famille. C'est un petit peu la même chose, c'est un bonheur rare, donc le bonheur, l'émotion aussi qu'on sentait, l'étonnement qui n'est pas que pour le public, il faut le dire, on évoquait hein, cette surprise finalement de voir arriver un objet qui va bien au-delà souvent de ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc peut-être pour rester, pour finir, parce que malheureusement il va falloir que nous nous quittions, rester dans l'émotion, rester dans le bonheur, enfin j'espère, peut-être est-ce que chacun vous pourriez évoquer un moment fort que vous avez vécu justement ici au musée du Louvre-Lens dans le cadre de l'aventure de ces expositions et de ce musée. Alors moi, je vais commencer parce que je sens que ma question provoque toujours une certaine surprise. Je dirais que un des grands moments, ça a été, enfin le premier en tout cas, ça a été effectivement cette réunion autour de ce projet Écho, musique dans l'Antiquité. C'est un projet dont j'avais eu connaissance dans d'autres fonctions, plutôt académiques, de recherche. C'était un projet de recherche extrêmement pointu, dont j'avoue, vous voyez, je manque beaucoup d'imagination. Jamais j'aurais eu l'idée de faire un projet d'exposition. Donc quand j'ai retrouvé ce projet en arrivant au musée du Louvre-Lens, je me suis dit, oh là là, mais comment... Alors 8 commissaires, des cultures professionnelles complètement différentes, des régions géographiques beaucoup plus différentes qu'on a tendance à le penser dans l'Antiquité, dans le bassin méditerranéen. Et puis, ces deux moments, d'abord le commissariat, brillant d'intelligence, mais aussi de différence. J'avoue que ça m'a excitée, parce qu'effectivement, il se révélait que c'était impossible. Il faut savoir que cette expo, j'avais le pouvoir de l'arrêter. Hein, ou de la programmer. Et puis, le moment, effectivement, du concours scénographique, avec toi, Clio, qui était près de moi, et qui me disait, on ne peut pas continuer à faire toujours la même expo, il faut, voilà. Avec mon équipe, qui a commis une grosse erreur, parce qu'ils sont venus me voir avant la réunion, en me disant, surtout, il y a un projet scénographique qu'il ne faut surtout pas choisir, c'est celui-là. Alors moi, il ne faut évidemment pas me dire ça dans la vie. Et quand cette réunion sur la scénographie, elle a été limpide, et je crois qu'elle a contribué aussi très largement à engager ou à confirmer une approche finalement thématique partagée du commissariat qui allait déterminer la réussite de l'exposition. Donc je dirais que c'est à ce moment-là que moi, j'ai senti ce que finalement le Louvre-Lens offrait justement, cette immense liberté disruptif, comme on dit aujourd'hui, de faire des expositions. La scénographie, on ne l'a pas décrite, c'était comme des tambours de voile suspendus de l'exposition. Il n'y avait pas un mur, c'était transparent. C'était assez compliqué de s'orienter, même s'il y avait des dispositifs intuitifs qui permettaient de le faire tout seul. Elle était à la fois à l'image de la complexité de l'exposition, de son ambition de faire apparaître des choses qui n'existaient plus. Elle avait quelque chose de fantomatique aussi. Elle était magnifique, elle a tenu l'exposition. Ariane.
À vrai dire, alors pour rebondir sur ce souvenir-là, non, je me souviens surtout que nous étions unanimes, parce qu'effectivement, Clio l'a bien dit, c'est la rencontre entre des idées plutôt qu'une d'ailleurs, et d'autant plus que nous étions effectivement en commissariat collectif, et des scénographes qui semblent percevoir ce vers quoi on veut aller et qui proposent quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé. Donc non, là, c'est vrai qu'on était, on était tous assez unanimes, et ça s'est complètement confirmé. Et je dois dire, je le glisse, on a vraiment, en tout cas moi, la chance d'avoir travaillé avec des grands architectes scénographes qui ont effectivement, qui m'ont beaucoup appris et qui ont beaucoup apporté au projet. Donc non, je vais répondre sans y répondre, au sens où c'est plutôt, et j'espère que le visiteur le ressent, une association assez durable et constante au Louvre-Lens, d'une forme de confort. On parle de bulles. Quand on arrive au Louvre-Lens, c'est, je pense, en effet, beaucoup lié à la qualité de l'espace, de l'architecture, de la scénographie, de la lumière, mais aussi de tout ce qui l'entoure, l'accueil, les gens, l'équipe, etc. C'est un tout, mais qui fait qu'on est dans une bulle très agréable. Et donc, je dirais plutôt... Une sensation qui ne fait que se confirmer. En plus, souvent, il fait beau. Mais même après, surtout quand on est dans les espaces. Donc j'espère que le visiteur a la même sensation, qu'il y a effectivement un équilibre général, une équipe qui le porte, et qui fait qu'on y est bien, j'espère, pour visiter, découvrir, rêver, apprendre aussi peut-être un peu. Mais pas obligatoirement, effectivement, c'est pas forcément l'objet. On y fait ce qu'on veut.
Clio. Alors, moi, c'est vrai que tout de suite, une sensation et des souvenirs arrivent le jour où nous avons décidé d'avoir un architecte en interne pour le Louvre-Lens. Alors, il est vrai que pour avoir fait beaucoup de concours, avoir eu beaucoup de collègues scénographes, architectes, c'est toujours bien d'avoir des nouvelles expériences, des nouveaux projets qui viennent de partout, du monde entier, pour les expositions. Mais un jour, nous avons décidé, il avait été décidé que le Louvre-Lens avait besoin d'un architecte en interne, un architecte scénographe. Et là, j'étais la plus heureuse des personnes, parce que c'est vrai que pour moi, il est impensable qu'un musée ne puisse fonctionner sans architecte scénographe en interne. On a tout le temps besoin d'un architecte qui peut régler un problème de position de vitrine ou de... Enfin, de toute façon, l'architecte est multifonction, peut faire beaucoup de choses. Et alors, nous avons auditionné plusieurs personnes et nous avons rencontré Mathis Boucher, avec qui nous avons en premier fait l'exposition Le Nain. Luc, et il est vrai que pour moi, c'est une passation un peu de beaucoup de choses, d'idées, avec Mathis, et j'avoue que je suis très contente qu'il soit là, qu'il soit encore là, qu'il fasse et qu'il fasse de lui-même plusieurs expositions. C'est une réussite et un exemple, vraiment un exemple, parce que c'était une personne qui arrivait très jeune. Mathis est une jeune personne et qui fait beaucoup de choses maintenant pour le Louvre-Lens, qui s'occupe des expositions qui vont arriver. Celle que vous avez en ce moment, Rome, a été entièrement donc créée par Mathis, et c'est une vraie réussite là aussi.
Merci beaucoup, Luc Pirala.
Moi, j'en ai effectivement beaucoup, des moments forts liés aux expositions. Alors, il y a différents niveaux. Je pense qu'effectivement, en termes de relations au public, RC Louvre restera un moment très particulier. Je pense aussi très important pour l'histoire de l'établissement, malgré tout. Voilà, ça semble jeter de fleurs. Au niveau du rapport au co-commissaire, parce que c'est quand même quelque chose de vraiment très important, Homer aura été un grand moment pour moi avec le travail avec Alexandre Farnoux, qui était donc professeur à la Sorbonne en archéologie et alors directeur de l'école française d'Athènes, qui m'a appris énormément de choses. Et puis au niveau émotion, je pense que tu t'en souviens, Marie, enfin vous en souvenez, Marie, c'est l'accrochage de Soleil Noir dans des conditions épiques, évidemment, avec le tout début de l'épidémie de Covid, enfin dont on n'avait pas encore anticipé évidemment toutes les conséquences, et avec un accrochage. Alors il faut toujours être agile dans les accrochages d'exposition, parce qu'il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais là c'est vrai qu'on avait poussé, à mon sens, l'agilité à un point assez important, puisque au fond, jour après jour, les frontières se fermaient et possiblement des œuvres qui devaient arriver n'arrivaient pas, et donc on avait un espace qui était lui déjà défini, un propos déjà défini dans lequel il fallait au fond presque faire avec ce qu'on avait en magasin, voire aller trouver des prêts de dernière minute dans les musées de la région. Voilà, ça c'est un souvenir quand même fort. Ouais.
Merci beaucoup, merci d'évoquer cette exposition Soleil Noir, chère à mon cœur, qui effectivement était pensée comme pouvant faire un lien entre ce territoire, l'histoire de la mine et toute l'histoire de l'art jusqu'à l'art contemporain, les problématiques d'abstraction, et puis qui s'est trouvée effectivement au cœur de la pandémie revêtir encore une dimension philosophique, une dimension d'actualité supplémentaire, avec effectivement un potentiel émotionnel, mais aussi un potentiel de compréhension du monde encore élargi, si j'ose dire. Élargir, grandir, justement, je trouve que dans ce dernier tour de table, c'est quelque chose qui ressort de vos paroles, l'exposition comme moment où l'on fait grandir le savoir, la manière dont on appréhende des objets, où l'on fait grandir l'expérience partagée avec le public, et puis aussi où l'on fait grandir, on le sent à travers vos paroles, le professionnel et même parfois au Louvre-Lens, la personne que nous sommes. Merci beaucoup à tous les trois pour ce podcast et pour votre participation à l'aventure du musée du Louvre-Lens et de ses expositions. Aventure qui continue. Merci.
Merci. Merci
Marie. Merci.
Le Louvre Lens. Du rêve à la réalité.